démarrer l'émission La Parole aux aînés avec Yannick Pavard et Annabelle Lajoie. Bonjour Annabelle.
Salut Yannick.
Donc Annabelle, on continue notre périple sur les ondes de Sekaya pour l'émission La Parole aux aînés, donc les mardis de 11h à midi tous les 15 jours.
Oui.
Aujourd'hui, c'est notre 28e émission. J'ai refait le calcul au complet, donc cette fois-ci, je ne me trompe pas.
Ça passe vite.
On est sur notre 28e émission. Donc lorsqu'on aura terminé cette saison-là, on va avoir un chiffre rond. Ça sera notre 30e émission, comme on l'a annoncé. Donc il va être une spéciale émission avec le Centre d'Action Bénévole du Contrefort. Alors pour nos auditeurs qui ne nous connaissent pas, donc une émission proposée, animée par justement une partie, donc les intervenants travailleurs du milieu du Centre d'Action Bénévole du Contrefort. Peut-être dire un mot sur justement le CAB.
Oui, donc on va en parler plus en détail justement là, dans l'émission spéciale pour le Centre d'action bénévole du Contrefort. Mais brièvement, en fait, le CAB, comme on l'appelle, notre Centre d'action bénévole ici là, dans Charlebourg, il fait partie du regroupement, je dirais, l'Alliance Action Bénévole qui est issue des trois centres d'action bénévole de la région de Québec, donc avec le Centre d'action bénévole de Québec et celui AID23 à Beauport. Ensemble, ça fait un service pour le soutien à l'action bénévole. Donc, ils ont une banque de bénévoles qui est possible de faire des jumelages bénévoles. Donc, c'est une nouvelle offre de service, j'oserais dire, du Centre d'action bénévole du Contrefort. Puis de l'autre côté, on offre des services aux individus, comme l'accompagnement transport, visite et appel d'amitié, dépannage pour menus travaux, mais également le service auquel Yannick et moi, on fait partie, on est employés, donc le service Aînez-nous à vous aider, qui est le service de travail de milieu auprès des personnes de 50 ans et plus.
Et si les gens veulent avoir plus d'informations, peut-être un numéro de téléphone pour nous rejoindre?
Oui, donc le plus facilement rejoignable, c'est le 418-622-5910. Puis ensuite, vous serez redirigé par notre menu vers le bon travailleur de milieu en fonction de votre secteur.
Oui, effectivement. Puis on invite les gens, s'ils ont Internet, d'aller sur capducontrefort.québec pour écouter justement les 27 autres émissions qu'on a enregistrées dans les trois dernières années. On parle d'Internet, justement, de notre site web, et le thème de notre émission pour le mois de mars, ça va être la fracture numérique. Donc, on va avoir une émission en une heure, c'est-à-dire aujourd'hui, qui va être rediffusée dans 15 jours, donc le 28 mars prochain. Alors, nos invités aujourd'hui que vous allez entendre dans quelques instants, donc on va être avec Marie-André Côté, donc chargée de projet pour Vote pour ça ou pour .ca. On va voir comment on va voir avec elle comment on le nomme l'organisme, et on va être avec Geneviève Robitaille, donc du projet Le Net me branche. Et on va avoir aussi un pré-enregistrement que j'ai réalisé un peu plus tôt avec Denise Moisan, donc une des utilisatrices qui a suivi justement une formation dans le cadre du projet. Alors bonjour mesdames, je vais ouvrir les micros. Donc bonjour Geneviève.
Bonjour.
Et bonjour Marie-André.
Bonjour.
Alors, Marie-André, justement, avant de commencer un petit peu, d'en savoir un petit peu plus sur toi, est-ce que tu peux me corriger sur l'organisme que tu représentes aujourd'hui? Vote pour ça, vote pour .ca?
Oui, c'est bien vote pour ça, et t'es définitivement pas le seul à faire l'erreur, là. C'est très fréquent qu'on entend vote pour .ca, mais ça se prononce vote pour ça.
Parce qu'en fait, c'est ça, lorsqu'on va sur Internet et qu'on essaye de vous trouver, le site, le nom de domaine, c'est vote pour .ca.
Exactement.
Parfait. Donc, on pourrait commencer par toi. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nos auditeurs?
Oui, absolument. Moi, en fait, j'ai mon background dans le domaine là, du travail social. Je suis diplômée en psychologie d'abord, puis ensuite, j'ai obtenu une maîtrise en travail social. Donc, j'ai travaillé plusieurs années là, pendant ma formation et après ma formation dans le domaine d'intervention sociale, donc plusieurs années comme intervenante de crise dans un centre de prévention du suicide. J'ai également été là, conseillère dans un programme d'aide aux employés là, pendant ma carrière. Puis en 2021, j'ai fait un changement de carrière important où j'ai décidé de quitter là, un peu l'intervention individuelle pour agir plus sur le plan collectif. C'est ça qui m'a amenée à travailler comme chargée de projet chez Vote pour ça.
Parfait. Donc, écoute, un bon parcours. Donc, merci pour cette première présentation pour nos auditeurs. On va se tourner du côté de Geneviève. Alors, Nos auditeurs le savent pas. Annabelle, aujourd'hui, on a un petit problème technique. Donc, on a un seul micro. Donc, des fois, ça se peut que ça prenne un quart de seconde entre nos intervenants ne pourront pas se couper la parole aujourd'hui, Annabelle.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Alors, Geneviève, même exercice pour toi. Qu'est-ce que les auditeurs doivent savoir sur Geneviève?
Bien, en fait, moi, j'ai un parcours un peu atypique, mais pour faire une histoire courte, là, j'évolue dans le milieu communautaire professionnellement depuis 5 ans seulement. Donc, j'ai commencé comme coordonnatrice dans un organisme communautaire à Neuchâtel, puis maintenant, là, depuis 18 mois comme agente communautaire, agente de projet intergénérationnel pour le Carrefour Jeunesse Emploi Chauveau pour le projet Honnête Me Branche.
Donc, on a deux personnes qui font des parcours atypiques, qui sont entre des domaines peut-être différents, puis qui passent de l'un à l'autre, intervention, projet, etc. Alors, on va repasser le micro à Marie-André, parce que peut-être la prochaine question, elle sera peut-être plus à l'aise pour y répondre. Hein. Annabelle, c'est la fameuse question, lorsqu'on aborde un sujet aujourd'hui, la fracture numérique, on pose une question, c'est pas vraiment une question piège à nos invités, mais on essaye d'expliquer à nos auditeurs très clairement de quoi on parle, et sans doute que la fracture numérique, c'est pas un terme qui est très connu dans le public en général. Hein. Les gens savent ce que c'est Internet, savent c'est quoi des ordinateurs, une tablette, etc. Tout ce vocable. Mais la fracture numérique, c'est peut-être quelque chose pour des intellos derrière des bureaux, je sais pas, des chercheurs qui essayent de réfléchir sur tout un tas de choses. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Marie-André, justement, sur qu'est-ce que la fracture numérique?
D'abord, la fracture numérique, ça correspond aux inégalités sociales dans l'accès et l'utilisation des technologies numériques. Bon, ça reste vague, là, juste une petite définition comme ça.
Mais au moins, technologie numérique, peut-être ça peut parler aux gens.
Mm-hmm. Donc, quand on parle de l'accès, entre autres, on va parler de l'accès aux équipements technologiques, donc un ordinateur, la tablette, des accès à des logiciels également, mais aussi à l'accès à Internet. Quand on parle de fracture numérique, c'est pas tout de posséder un ordinateur. L'appareil, le type d'appareil qu'on va avoir aussi un impact sur ce qu'on va pouvoir faire avec. Par exemple, si j'ai une tablette et que je veux rédiger un texte qui soit bien construit, qui soit avec une belle mise en page, mais c'est pas le bon outil. Donc l'outil qu'on a va avoir un impact sur comment qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on peut vivre d'une certaine forme de fracture même si on a certains équipements. Aussi, on peut parler de la qualité de l'Internet. Si mon Internet n'est pas assez rapide, est-ce que je vais être capable d'avoir une conversation vidéo, d'écouter une vidéo sur YouTube? Puis finalement, il y a l'autonomie dans l'accès aussi qui est important quand on parle de la fracture numérique. Est-ce que j'ai accès à un ordinateur chez moi où je dois me déplacer et à Internet où je dois me déplacer dans un lieu pour y avoir accès? Par exemple, est-ce que je dois me rendre à la bibliothèque pour accéder à un ordinateur? Donc, j'ai pas la même autonomie qu'une personne qui peut juste aller dans son salon, ouvrir son ordinateur, puis se mettre à l'utiliser tout simplement.
Je comprends vraiment mieux, là.
C'est bien plus complexe que j'imaginais,
oui,
finalement.
Moi aussi.
Hein.
Puis on parle aussi de l'utilisation. Donc, d'avoir un accès à un équipement, c'est pas tout, en fait. C'est vraiment important d'avoir les capacités, d'avoir développé les compétences pour utiliser ces appareils-là, ces équipements-là. Quand on parle d'utiliser un appareil, on peut avoir certaines compétences de base, mais être rapidement limité dans ce qu'on est capable de faire. Donc, quand on va parler d'une capacité à utiliser les technologies numériques, ben c'est vraiment d'être capable d'atteindre des objectifs ciblés, de combler des besoins spécifiques. Par exemple, je peux vous nommer une liste de tâches où certaines personnes vont être capables de faire certaines tâches parmi celles-là, mais pas l'ensemble. Donc, on peut être capable, par exemple, d'aller consulter l'actualité en ligne, de regarder du contenu vidéo en ligne. On peut consulter ou publier ou partager du contenu sur des réseaux sociaux comme Facebook. On peut être envoyer ou consulter ses courriels, faire un appel vidéo, par exemple, sur Messenger ou par Zoom. Finalement, faire effectuer des achats en ligne ou remplir un formulaire en ligne. Donc, on peut faire une partie de ces tâches-là, mais pas toutes. Et à ce moment-là, on peut quand même vivre une certaine forme de fracture numérique sans être capable d'utiliser l'ensemble de... en étant capable d'utiliser l'équipement, mm-hmm. faire certaines choses.
J'aurais une question pour toi, Marie-André. Est-ce que le coût des appareils, le coût, l'accessibilité, en fait, rentre dans cette fracture numérique-là, parce qu'on parle d'inégalité, donc pour moi, ça sonne des cloches dans ma tête, avec mon background en travail social aussi, mais c'est ça, fait que dis-moi en plus peut-être.
Oui, effectivement, l'accès va être limité pour différentes raisons, mais le coût peut être effectivement quelque chose qui va limiter. On le voit d'ailleurs que les personnes, par exemple, qui ont un revenu plus faible, vont avoir davantage à vivre une fracture numérique. On l'a vu aussi pendant la pandémie, c'est devenu, par exemple, on peut prendre une famille de deux enfants, deux parents. Tout à coup, il y en a deux qui se retrouvent en télétravail, les enfants à l'école, à la maison. Avoir 4 ordinateurs, c'est pas la même chose qu'en posséder un. Donc, il y a beaucoup de familles qui se sont retrouvées avec des situations plus difficiles dans ce contexte-là. Mais effectivement, c'est beaucoup plus, c'est pas accessible à tous, là, d'un point de vue financier, d'avoir l'équipement, mais aussi de payer la connexion à Internet, là, mensuellement.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'aime ça que tu aies apporté la pandémie parce que ça faisait partie aussi là des sujets qu'on voulait aborder avec Yannick. Fait que toi, ce que vous faites avec votre pour ça, vous pensez vraiment que la pandémie a exacerbé la fracture numérique là dans notre société là?
Effectivement, mais en fait, il s'est passé un peu deux choses en parallèle pendant la pandémie. Donc, c'est la fracture numérique, ça s'est accentué pour une certaine frange de la population. Ce qu'on a remarqué, c'est que ça a provoqué une accélération de la transformation numérique. Ça se traduit par exemple, il y a de plus en plus de nos besoins qu'on va répondre de façon numérique et ça va être de plus en plus difficile d'y répondre de d'autres façons. Wow. Puis ça, on pense pas que c'est quelque chose qui va ralentir. On pense que ça va continuer même si la pandémie est de plus en plus derrière nous. Mais en même temps, elle a aussi amené beaucoup de citoyens à se former, à prendre confiance, à développer les compétences, à s'équiper. On le voit aussi chez de nombreux Canadiens là, plus âgés qui se sont mis à développer ces compétences-là. Donc, il y a des gens qui ne vivent plus ou moins de fractures numériques dans ce contexte-là. Mais ceux qui sont restés derrière, qui n'ont pas appris, qui n'ont toujours pas accès, eux, par contre, se retrouvent dans une situation de plus en plus difficile et vivent de plus en plus d'impact.
Donc, comme d'habitude, il y a toujours deux côtés à une médaille, hein. Donc, pour certains, ça a été hyper positif de devoir un peu avoir la tape dans le dos pour dire, OK, ben, c'est le temps pour moi, là, d'aller chercher de l'aide pour tout au niveau des outils numériques. Mais pour certains, qui avaient déjà une situation précaire, on a vu la situation s'exacerber. C'est bien ça?
Exactement.
Ce terme-là de fracture numérique, ça doit être quand même assez récent, ce terme-là, parce que c'est sûr que ça fait peut-être 20 ans que Internet, ça existe, mais je veux dire, tous ces questionnements qu'on a, ils doivent quand même de quelques années.
En fait, ils sont arrivés très tôt avec l'arrivée de la technologie. C'est juste qu'ils ont été peut-être moins popularisés. Donc, il y a depuis les tout débuts, il y a des inquiétudes à cet effet-là. J'ai pas les dates là, mais je le sais que c'est quelque chose qui est arrivé rapidement, ces inquiétudes-là. Mais c'est vrai que on n'en avait pas parlé. Tu sais, c'est pas quelque chose qui était popularisé dans le langage. Pas qu'il soit encore vraiment très popularisé dans le langage courant, mais on a entendu beaucoup plus parler. C'est quelque chose qui ressort de plus en plus. Je pense que la pandémie a fait ressortir cet enjeu-là de manière frappante là, dans les dernières années.
OK. Alors, parle-nous justement un petit peu de cet organisme Vote pour ça. Est-ce que c'est un mandat que vous êtes donné? Est-ce que c'est le seul mandat que vous avez dans votre organisation?
Non, pas du tout en fait. Nous, on est un organisme qui va travailler avec différents municipalités, différents organismes pour favoriser l'acceptabilité sociale de projets locaux. Donc, on va mettre en place des consultations, faire des concertations, favoriser la participation citoyenne. Donc, dans certaines situations, on va être engagé, par exemple, on va travailler avec une municipalité qui veut mettre de l'avant quelque chose, on va être responsable d'aller faire la consultation auprès des citoyens dans différents contextes. Mais on a aussi nos projets, dans le fond, qu'on construit nous-mêmes, des choses des projets qu'on trouve importants, dont un projet sur l'action climatique et le projet là, sur la fracture numérique là, sur lequel moi, je travaille.
Donc, ça veut dire que vous n'avez pas eu de mandat spécifique pour la fracture numérique? Il n'y a personne qui vous a mandaté, un gouvernement, une municipalité?
Non, c'est vraiment venu de nous. Pendant la pandémie, en fait, de notre notre côté, on s'est retrouvés à faire beaucoup d'animations en ligne. On a vécu nous-mêmes là, des aspects de la fracture numérique dans l'aspect de notre travail. Puis on a fait aussi plusieurs concertations avec des organismes du territoire. Puis c'est vraiment une thématique qui revenait là, à chaque fois, là, cette inquiétude-là. Puis c'était vraiment vu comme un enjeu important. C'est dans ce contexte-là où on s'est mis à réfléchir avec certains organismes, où on est allé plus loin, puis on a décidé là, de construire un projet là, dans le but de pouvoir agir sur la fracture numérique.
OK. Alors, justement, parle-nous un petit peu des organismes. J'imagine que vous avez essayé de... Vous travaillez uniquement sur la ville de Québec pour cette question-là ou vous êtes un peu plus large?
Pour le moment, c'est seulement pour la ville de Québec, mais on est en train de regarder là pour aller plus large, mais c'est pas encore... Il n'y a rien de confirmé là à cet effet-là pour le moment. En fait, oui, effectivement, on travaille avec... plusieurs organismes de la ville de Québec, mais aussi des organismes plus larges, là, je dirais, pour aller chercher une certaine expertise. Ben, d'abord, là, le projet a été financé là, grâce à la Fondation Lucie-André Chagnon et les Initiatives canadiennes pour des collectivités en santé dès le départ. Puis on a aussi collaboré avec l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, que je vais appeler OBVIA pour la suite. Donc, c'est un étudiant qui a été engagé par l'OBVIA qui a effectué une revue littérature sur les leviers d'action à la portée des organismes communautaires pour réduire la fracture numérique et ses impacts. Donc, c'est vraiment ce sur quoi porte notre projet. On veut soutenir les organisations à mieux aider les citoyens en situation de fracture numérique. Puis sinon, bien, on a aussi contacté plusieurs organisations de la Ville de Québec pour essayer de les mobiliser dans la démarche. Certains qui travaillaient déjà, qui avaient mis en place des initiatives pendant la pandémie, ou dont c'est leur rôle là, de soutenir des citoyens en situation de fracture numérique. Puis le but, c'est pouvoir... travailler tous ensemble pour trouver c'est quoi les meilleures façons d'agir, qu'est-ce qu'on a besoin pour mieux répondre aux besoins des gens en situation de fracture numérique, autant pour les soutenir à les former, les aider à développer leurs compétences si c'est ce qu'ils souhaitent, si c'est ce qu'ils veulent, mais aussi s'assurer qu'ils puissent répondre à leurs besoins essentiels sans nécessairement avoir développé ces compétences-là. Donc, je vais parler, par exemple, on s'est allié avec les bibliothèques de Québec. On s'est allié aussi avec plusieurs démarches en développement des communautés, comme Engrenage, Saint-Roch, Rendez-vous Limoilou, Mobilisation Haute-Ville, le collectif pour un transport abordable et accessible à Québec, Libre Emploi, des organismes aussi comme la Marée des Mots, Limoilou, Limoilou, À tout lire, le Cap du Contrefort, Carrefour Jeunesse Emploi Chauveau, et même Mon Avenir TI, qui eux veulent former là, finalement des gens au numérique, donc qui est une organisation qui travaille davantage avec les organismes du numérique. Donc, on essaye vraiment de ratisser très large pour pouvoir amener toute l'expertise nécessaire pour agir globalement.
Puis c'est quoi, dans votre échéancier de projet, vous en êtes à quelle étape pour le moment? Je pense que vous êtes seulement à sonder un peu les organismes. Vous n'avez pas encore de contact directement avec les citoyens?
De notre côté, c'est sûr qu'on offre pas nécessairement on n'offrira jamais votre pour ça nous-mêmes les services aux citoyens. Par contre, il y a une consultation citoyenne là, qui est en cours, en continu. Il y a différentes façons là d'y participer. Par exemple, on a un numéro de téléphone pour nous joindre pour pouvoir faire un entretien téléphonique avec quelqu'un de notre équipe. Puis on peut aussi se déplacer dans des lieux, dans des organismes là pour soit faire un groupe de discussion, mais aussi des fois ça peut être juste pour aller discuter avec les gens dans un contexte de café-rencontre, donc aller pour pouvoir comprendre leur réalité. Donc, c'est important pour nous d'aller s'assurer de bien comprendre ce que les gens vivent. On peut regarder là, les organismes communautaires ont quand même une belle expertise, connaissent bien leur clientèle, mais ça reste très important pour nous de s'assurer de parler directement aux personnes pour comprendre ce qu'ils vivent.
Une bonne introduction, un bon gros morceau dans cette émission sur la fracture numérique avec une petite présentation courte. Là, je pense qu'on aurait pu rester une heure, en tout cas, à décortiquer un petit peu tout ça. Mais on va se tourner du côté de Geneviève parce que Annabelle, dans le cadre de notre travail comme travailleur du milieu, on rencontre des aînés, on rencontre des besoins et souvent dans cette grande, vaste question des fractures numériques, l'accès à un ordinateur, même le manque de connaissances pour utiliser Internet, auprès de la clientèle aînée, c'est quelque chose qui est assez courant. Donc, lorsqu'on est confronté à ça, souvent, on essaie de les référer vers des organismes qui peuvent au moins lui apporter des connaissances, du soutien. C'est pas tous les territoires, malheureusement, pour l'instant, où on a des organismes qui peuvent soutenir. On, tout à l'heure, a parlé à Marie-André de la bibliothèque. Donc, c'est sûr qu'à la bibliothèque, il peut y avoir un certain soutien. Et là, justement, on a Geneviève qui vient de nous parler d'un des services qui existent dans la communauté. Alors, peut-être, Geneviève, avant de parler du projet, dans quel secteur ça concerne quel secteur?
Oui, le projet de Net Me Branche concerne le secteur de la Haute-Saint-Charles et de la MRC de la Jacques-Cartier. Donc, Saint-Gabriel, Shannon, dans ce secteur-là, très au nord.
Alors, le Net Me Branche, c'est le nom du service, mais c'est qui est derrière, finalement, ce projet-là?
Oui, donc, le Net Me Branche, là, est supporté et géré par le Carrefour Jeunesse Emploi Chauveau. Par contre, il vient d'un projet beaucoup plus grand, une grande initiative, qui est le réseau Poivre et Sel. Donc, le réseau Poivre et Sel a plusieurs collaborateurs, plusieurs partenaires. Il est là, il existe, en fait, là, c'est subventionné par le IVPSA, donc... Annabelle, est-ce que tu veux bien me dire, s'il te plaît, c'est quoi le IVPSA?
Oui, donc c'est l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés.
Des aînés, c'est ça. Donc, c'était le P que j'ai eu un petit blanc. Donc, on est quatre grands organismes qui faisons des activités, des projets, en fait, là pour favoriser la participation sociale des aînés. Donc, des sorties, des événements, des activités. Oui, le Net Me Branche, au niveau du numérique, va aider. Des brins de jasette, des causeries, des jardins collectifs. Donc, vraiment, là, le réseau Pauvre-Sel est là pour aider à favoriser la participation sociale des personnes de 50 ans et plus dans le secteur de la Haute-Saint-Charles là, et de la MRC de la Jacques-Cartier.
Toi, est-ce que tu sais initialement comment c'est né ce projet-là? Est-ce que c'était un besoin ressenti dans la communauté? Est-ce que c'était dans l'air du temps de dire, faudrait qu'on aborde cette question-là? Est-ce qu'il y avait des demandes d'aînés dans ces milieux-là qui disaient, moi, je sais pas utiliser la tablette, puis ce projet-là, est-ce que tu le sais un petit peu?
Bien, dans le cadre du projet de Net Me Branche, effectivement, là, quand il y a eu un appel de projet, il y a, je pense, trois ans, les gens, là, se sont réunis de la Haute-Saint-Charles et dans plein de milieux dans la ville de Québec aussi, à savoir, c'est quoi les besoins, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on constate. Et Aide à la communauté, service à domicile, a dit, écoute, moi, je travaille avec des aînés et j'aimerais faire un projet pour les aînés. Ça cadrait vraiment avec IVPSA. Donc, à ce moment-là, le Carrefour Jeunesse Emploi a levé la main et a dit, OK, parfait, où est-ce qu'on pourrait trouver des jeunes, le côté intergénérationnel, pour répondre à un besoin numérique? Parce qu'on sait, les jeunes sont comme nés là-dedans, ça fait bien. Fait que c'est de là que l'ancienne direction là a proposé ce projet-là, qui s'est greffé au réseau Poivre et Sel, finalement. Là. Donc, c'est vraiment, c'est parti vraiment d'un besoin nommé et trouvé là, par les intervenants du milieu, là.
Donc là, ça veut dire que les travailleurs de milieu de ce secteur-là, Haute-Saint-Charles, il y en a deux, Kevin puis Evelyne. Donc, ils ont la possibilité de référer des aînés qui auraient besoin d'une formation. C'est bien ça un petit peu, Geneviève?
Oui, exactement.
Des gens qui ont besoin de formation.
Oui. C'est déjà arrivé d'ailleurs que vos collègues me réfèrent des gens, donc
on
leur travail, hein,
on les surveille.
On est beaucoup sur le terrain aussi, donc on va visiter des résidences. J'ai les gens du CLSC aussi qui m'en réfèrent. J'ai des enfants de mon âge, là, 40 ans, 45, 50 ans, qui vont me référer, leurs parents qui sont dans le secteur aussi. Donc, il y a beaucoup le bouche à oreille pour l'instant. On n'a pas eu besoin de faire beaucoup de publicité. Le besoin est là. Donc, le bouche à oreille a fait qu'on a déjà une belle liste d'élèves diplômés, si on peut dire, en cours et même une petite liste d'attente aussi. Donc, oui, effectivement, là, on invite les travailleurs de milieu, les intervenants du secteur de la Haute-Saint-Charles à nous référer leurs gens. Tout à fait.
Wow. Puis moi, je me demandais, là, tu sais, vous parlez de vos diplômés, de personnes sur la liste d'attente, vous parlez environ de combien de personnes aînées qui ont été rejointes par le Net Me Branche ou qui seront rejointes prochainement?
OK, bon. Et là, actuellement, là, je dirais qu'à peu près au bout de 15 mois, 15-20 mois de projet, là, vraiment, qui a démarré, les cours en demande, on parle de 80 aînés. Donc, qui ont suivi, là, on est des volets 1, des volets 2, là, que je pourrais peut-être parler plus tard, là, mais donc, qui ont été rejoints d'une manière ou d'une autre au niveau, là, de et, en fait, c'est une quarantaine par session, là, à peu près, là, wow. Entre 30 et 40 par session. Donc, on va, dans un âge, on va dire, on en a 160 probablement, là, donc ça c'est oui, ça double à chaque fois. Donc, effectivement, c'était une belle réussite.
Oui, très positif, très positif.
Puis, est-ce qu'il y a des critères d'accès pour que les gens qui s'inscrivent, qui voudraient te rejoindre?
Oui, bien, en fait, 50 ans et plus. Hein? Donc, ensuite, le territoire. Donc, on en parlait tout à l'heure, Haute-Saint-Charles, MRC de la Jacques-Cartier. Et c'est tout, en fait. Donc, c'est inclusif, là. Tout le monde, il n'y a pas de sexe, de nationalité. Fait que c'est vraiment le territoire et l'âge qui fait que vous pouvez faire partie ou pas du projet de Net Me Branche.
Donc, il n'y a pas de bataille pro PC, Mac, tout ça? Y a
non,
pas, de...
pas du tout. J'ai des bénévoles qui ont des compétences dans les sur les deux. Donc, puis si c'est pas le cas, ben on met la personne sur la liste d'attente. Puis dès que j'ai un bénévole qui se libère pour, mettons, le Apple, qui est peut-être un petit peu moins connu, ben à ce moment-là, on l'embarque sur le projet, là.
Parce que les formations que vous offrez, c'est vraiment sur les tablettes. Tablettes, téléphones.
Cellulaires. Tout okay. à fait. On
mais
fait
pas
les
d'ordinateur. Parce que
pas pour l'instant.
On l'a vu dans d'autres émissions. Sur l'alphabétisation, justement, il y a beaucoup d'organismes qui offrent des cours derrière les ordinateurs, mais vous, c'est vraiment plus sur les appareils mobiles,
ouais,
on va dire.
Oui, exactement. À une certaine époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, je ne sais pas si Marie-André peut m'aider, mais les bibliothèques offraient souvent des cours sur ordinateur. Eux-mêmes, ils ont souvent un parc informatique là, accessible à tous. Donc, je sais qu'ils en faisaient. Dans notre cas, ben, c'est une question de logistique. Hein, se trimballer avec des ordinateurs, c'est pas autant pour la clientèle qui viendrait à nos bureaux que nous, en se déplaçant, ça, on fait beaucoup de terrain. Donc, ça serait pas pratique. Les laptops étant beaucoup plus chers aussi que des tablettes. Mmh. Nous, on en prête aux gens. Hein, donc, c'est ça, on n'aurait pas les moyens là, financiers de prêter des laptops à tout le monde. Là.
OK. Ben justement, on devait avoir Denise Moisan qui était une des inscrites,
oui.
une des participantes,
oui,
pas une utilisatrice, je ne sais pas comment, c'est quoi le terme qu'on utilise, depuis quelques mois, je pense.
Oui,
ou
elle a commencé
semaines.
En octobre, okay. 3e de septembre, pardon.
OK. Donc là, on a fait une petite entrevue, une pré-entrevue qu'on va écouter avec, ensemble, puis on va rebondir justement sur des choses qu'elle nous parle par rapport à son expérience d'aînée. Donc on va y aller tout de suite avec une pièce musicale, donc on va écouter Petula Clark, Je me sens bien auprès de toi, et après on enchaîne tout de suite avec l'entrevue donc avec Denise Moisan. Donc vous êtes sur les ondes de Sekaya au 88.3 pour l'émission La parole aux aînés.
Je me sens bien auprès de toi. L'impression d'être en vacances, même quand tu dis rien, même quand tu fais rien, je suis bien avec toi, je suis bien. Je me sens bien quand je te vois. J'en ai tout chaud longtemps d'avance, et ton bras sous mon bras, et ta main dans ma main. Je suis bien. Avec les autres, il faut tout dire. Nous, on se comprend d'un sourire. Je me sens bien auprès de toi. Quand on s'amuse ou quand on danse, je ne sors qu'avec toi. J'en oublie mes copains. Ça fait rien, avec toi je suis bien. Oh yep, yep, yep,
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 oh yep, yep, yep.
On est surpris quand on se quitte, que le temps soit passé si vite. Je me sens bien auprès de toi. J'ai l'impression d'être en vacances, même quand tu dis rien, même quand tu fais rien, je suis bien avec toi, je suis bien. Oh yep, yep, yep,
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 oh yep, yep.
Donc, bonjour Denise, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as connu l'organisme, en tout cas le service, le Net Me Branche?
Par un ami, j'ai vu, il avait mis une photo sur Facebook avec Geneviève. Alors, par la suite, j'ai contacté Geneviève parce que je trouvais que c'était intéressant pour des personnes âgées d'avoir un suivi pendant 6 mois. Et des tablettes aussi qui nous ont prêtées pendant 6 mois pour pouvoir apprendre à l'utiliser.
Et toi, est-ce que tu étais déjà équipée déjà avec du matériel?
Moi, j'ai un ordinateur mais j'avais pas de tablette. Et je sais que mon fils m'avait dit, qui est en informatique, m'avait dit, « Maman, quand tu seras prête à avoir une tablette, va donc suivre un petit cours, ça va t'aider. » Tu sais?
Et puis est-ce que
tout à fait la même chose que l'ordinateur.
Et justement, est-ce que tu as senti une différence quand tu as commencé à suivre les cours avec la tablette par rapport à ce que tu connaissais de l'ordinateur? Est-ce que tu vois une différence entre ces deux supports?
Oui, absolument. Dans le sens que la façon d'aller chercher les renseignements ou d'aller sur Internet ou d'utiliser le Messenger, les outils de faciles là pour les personnes âgées, ben c'est sûr qu'il y a une petite façon différente de les faire.
Puis toi, du coup, suite à un petit peu cet apprentissage que tu as eu avec la tablette, est-ce que ça t'a donné le goût d'en avoir une aussi pour toi?
Éventuellement, oui. C'est sûr que moi, j'utilise le traitement de texte quand même assez régulièrement encore, et l'ordinateur est un meilleur support présentement encore pour moi. La journée que mon ordinateur va me lâcher, ben, c'est bien évident que je vais y penser vraiment deux fois là si je m'achète une tablette ou un ordinateur.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contenu des cours? Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous êtes plusieurs dans une grande salle? Est-ce que c'est individuel? Combien de temps ça dure?
Bon, ils sont trois personnes qui viennent à chaque deux semaines nous rencontrer. Toutes les neuf personnes que l'on a pour le cours, parce que normalement c'est huit personnes maximum, ils ont accepté, compte tenu que moi j'avais quand même une certaine facilité là, d'être neuf personnes. Et c'est divisé par thème. Alors à chaque deux semaines, pendant six mois, on a un thème différent. Alors je donne juste un petit aperçu là. D'abord, créer un compte pour courriel. Ensuite, le Facebook. Prendre des photos. Ensuite, les achats en ligne. La sécurité numérique. Et ainsi de suite. Là. Il y a une bonne 7-8-10 cours là, facilement là, qui sont reliés à ça.
Toi, tu disais que tu avais déjà des connaissances. C'est-à-dire que tu as déjà travaillé beaucoup avec l'ordinateur? Mais est-ce que tu vois une différence quand même entre
mon travail professionnel?
Ouais. Mais est-ce que tu vois quand même une différence entre le travail dit professionnel à l'ordinateur et un peu les nouvelles approches sur Internet, puis les problèmes de sécurité, les achats en ligne, c'est des choses que tu apprends pas forcément au travail?
Sincèrement, je n'utilise très peu ce moment. Je suis peut-être trop prudente là. Mais je ne suis pas rendue à cette étape-là encore. Moi, j'aime le contact avec les gens. Fait que c'est sûr que en partant, j'aime mieux parler à une personne que parler à un ordinateur.
OK, ouais. Mais des fois, ça peut être pratique de lancer une vidéo justement pour voir quelqu'un, ses petits-enfants ou autre.
Oui, ça oui. Durant la pandémie particulièrement, ça, on l'a utilisé énormément. Puis je pense que ça a aidé beaucoup de personnes âgées à démystifier un petit peu les ordinateurs. Parce que moi, j'ai vu dans une résidence personnes âgées où j'étais là durant la pandémie, là beaucoup plus de gens tenter, essayer d'utiliser ces outils-là pour contacter leur famille.
Puis tu as vu des obstacles justement qui rencontraient ces personnes-là?
Les principaux obstacles que les personnes âgées rencontrent, c'est la mémoire, c'est la vision.
Mm-hmm.
Je m'explique. La mémoire, c'est que quand on fait pas une routine, une façon de faire régulière, c'est comme la conduite automobile, si tu veux, là. Quelqu'un qui prend l'auto une fois par mois, il sera jamais bon conducteur. Mm-hmm. Les réflexes sont pas là. Avec l'ordinateur, c'est la même chose. Tu l'utilises une fois de temps à autre, tu te souviens plus comment aller sur Internet, comment faire le cheminement pour arriver à ton besoin.
Oui.
Alors, faut vraiment l'utiliser régulièrement, je dirais à toutes les semaines, idéalement à tous les jours pendant un certain temps, pour se familiariser puis apprendre la marche à suivre pour arriver à notre demande.
Avant que tu passes à la deuxième chose sur la vision, Denise, est-ce que tu penses que la tablette, justement, par rapport à l'expérience que tu as eue avec ton cours, est-ce que tu penses que la tablette, c'est un moyen qui est un peu plus avantage justement pour les personnes qui utilisent régulièrement que d'avoir un gros ordinateur avec une souris puis plein d'icônes puis.
Exactement, oui. Ça, c'est justement un des avantages de la tablette. Ça se traîne partout. C'est plus facile, tu sais. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours le lien Internet là qu'il faut avoir, mais il y a quand même plusieurs endroits où on peut se brancher là sans trop de problèmes.
Alors, donc ça, c'était la mémoire, donc c'est le manque de pratique, on va dire, qui fait que des fois, si le programme, l'environnement, l'interface est trop compliqué, les gens peuvent pas se retrouver, OK.
C'est ça. Tu sais, des mots de passe, les choses régulières. Tu sais, aller sur notre compte bancaire, par exemple.
C'est vrai.
Les gens, bien souvent, ils oublient leur mot de passe, ils le marquent pas. Tu sais, c'est sûr que c'est des petites choses. Puis au niveau gouvernemental, c'est encore pire. Par contre, moi, je trouve que là encore, avec Clic Santé, là, les gens l'ont utilisé. On a eu 5 doses de vaccin. Les gens ont été obligés de l'utiliser un petit peu plus régulièrement.
C'est vrai.
Donc ça s'est fait de façon peut-être un petit peu plus facile. Mais toutes les choses gouvernementales qu'on utilise une fois par année quand on fait notre rapport d'impôt, là, si on ne marque pas notre code de sécurité, notre mot de passe, il y a des chances que on l'ait oublié, hein.
C'est vrai, t'as raison. Puis l'autre chose, tu disais au niveau de la vision, des fois ça peut limiter l'accès aux machines.
C'est sûr que la vision, tu sais, sur une petite tablette, même si tu peux grossir un peu les lettres, là, c'est toujours un petit peu plus difficile à lire, ou un téléphone, là, c'est toujours un peu plus difficile à lire avec les petits caractères que sur un ordinateur, là.
Mm-hmm.
Alors, c'est sûr que ça peut rebuter certaines personnes. À utiliser aux autres choses.
Plutôt aujourd'hui, en 2022, est-ce qu'il y a des choses par rapport à tes connaissances, puis suite à ta formation, que tu trouves encore difficile à utiliser sur l'ordinateur ou sur l'Internet en général?
Pas difficile, mais disons que c'est évident que l'ordinateur a ses limites. Dans le sens que moi, je suis d'une génération où on partageait avec des personnes, il y avait un contact humain qui était majeur.
Mm-hmm.
On téléphonait à une personne. On aimait ça parler directement à la personne pour avoir de bons renseignements. On pouvait y poser des questions. Tandis que l'ordinateur, c'est froid. C'est logique. Ça nous amène à des réponses, mais il faut savoir le comment arriver à avoir cette réponse-là.
Donc moi, ce que je peux résumer un peu ton idée derrière ça, en tout cas, il y a peut-être plusieurs idées pour les auditeurs, c'est que tu dis que peut-être dans ta génération à toi, c'est pas tant des fois l'obstacle de la machine et tout, c'est plutôt peut-être un manque d'intérêt d'aller vers ces technologies.
Oui.
Que de prendre le téléphone ou d'aller directement voir sa voisine ou autre, tu dis que c'est peut-être ça aussi qui freine aussi le fait que les gens... comme des jeunes qui passeraient beaucoup de temps là-dessus, là, qui utiliseraient beaucoup d'applications, beaucoup de médias sociaux pour discuter avec d'autres jeunes, bah, ta génération à toi, ça fait en sorte que c'est un frein parce que vous n'ayez peut-être pas trop d'intérêt.
Exactement. Okay. Et on aime mieux parler directement à la personne, soit par téléphone ou en personne, que de le faire par messagerie.
Ok, bien c'est intéressant. Et ben écoute, toi, ce que j'imagine que tu conseilles aux auditeurs de prendre contact avec justement le Net Me Branche, en tout cas pour suivre cette formation, parce que j'imagine que dans l'apprentissage, ça doit être quand même adapté pour y aller pas à pas là.
Absolument, adapté. Ils répondent beaucoup à nos questions, comme sont 3 pour 8 personnes. Je peux te dire qu'on a vraiment des choses personnalisées. Chacun peut évoluer à son rythme à travers ça.
Parfait. Ben écoute, je te remercie. Merci, Denise, pour avoir répondu à nos questions.
Ça me fait plaisir. À la prochaine.
On est de retour sur les ondes de CKIA 88.3 FM pour l'émission La parole aux aînés. On vient tout juste d'écouter l'entrevue avec Denise Moisan, qui est une des utilisatrices des services de Le Net Me Branche, et avec qui on est avec Geneviève Robitaille. Puis, je crois qu'on avait là, certaines réactions là autour de la table concernant cette entrevue-là. Je sais pas si Marie-André, tu voudrais te lancer?
Oui, absolument. En fait, moi, j'ai trouvé ça très intéressant quand elle a parlé de la mémoire, en fait, parce que c'est vrai que quand on répète pas une action assez souvent, ça peut être difficile de s'en souvenir. C'est toujours un peu à recommencer. Par contre, ce qui moi m'a frappé, c'est qu'il y a une étude qui est sortie sur de Net Tendance qui s'appelle Les aînés connectés au Québec, qui s'intéresse aux personnes âgées de 65 ans et plus, qui fait une comparaison avec les données de 2019, donc avant la pandémie, pour vraiment avoir un comparatif plus clair sur qu'est-ce qui s'est passé. Et en termes d'utilisation d'Internet, ce qui ressort, c'est que maintenant, il y a 78% des aînés qui naviguent quotidiennement sur Internet, et c'est une augmentation de 16% depuis 2019, donc une augmentation quand même assez marquée sur une utilisation plus fréquente. Donc, on peut penser que ces gens-là auront moins cette réalité-là de la mémoire. Ils vont pouvoir faire les actions plus fréquemment, plus régulièrement, puis devenir réellement plus à l'aise avec l'Internet à ce moment-là.
C'est sûr que l'âge de la clientèle aînée, on s'entend que c'est sûr que quand on vieillit, notre mémoire est affectée. Mais on parlait hors antenne aussi, ça nous arrive à nous aussi, là, tu sais, qu'on a une action à faire une fois dans l'année pour le fameux clic sécure, tu sais, aller chercher, je sais pas, un avis de cotisation électronique quelque part. On se bat avec des fois des règles de mot de passe qui doivent changer, qui doivent avoir tel caractère, puis telle affaire, c'est...
pas évident.
Geneviève, là, je pense que même toi, ça t'arrive aussi?
Oui, effectivement. Puis dans le cadre du cours Le Net me branche, il y a un module sur la sécurité numérique. Donc oui, on parle des stratagèmes actuels qui circulent au Québec ou au Canada. Qu'est-ce qu'on fait quand on pense que ça nous est arrivé? Qu'est-ce qu'on fait quand ça nous est arrivé? Mais on voit aussi la notion des mots de passe. Hein? Donc, c'est quoi un bon mot de passe? C'est quoi des renseignements personnels? À qui on doit donner certaines informations et à qui on doit pas donner certaines informations. Et là, les gens, ils partagent beaucoup leur vécu. Donc, par rapport à ça, là, des fraudes par Messenger, des fraudes qui par téléphone aussi. Donc, il y a un aspect sécurité numérique important qu'on voit dans le projet Le Net me branche pour tous les élèves.
Super. Puis, tandis que tu as la parole, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus les formes que peuvent prendre les cours chez Le Net me branche?
Oui, tout à fait. Donc, il y a deux volets, en fait. Donc, le volet 1, c'est les gens que ils n'ont jamais utilisé le cellulaire ou la tablette, qui en ont pas non plus, puis qu'ils ont le désir d'apprendre. Mais avant de se lancer dans un investissement, hein, souvent, on parle de 200-300 $ pour une tablette, en plus d'une connexion Internet. Donc, on leur prête pendant 6 mois un outil avec Internet intégré, et on leur offre des cours sur une période de 6 mois. Donc, c'est vraiment au rythme de la personne. Souvent, c'est du 1-1, donc un bénévole pour un élève ou un bénévole pour 2 élèves. Donc, c'est très intime. On va vraiment au rythme des gens. Donc, si, par exemple, le module courriel, ça leur prend 3 cours, ben on le fera en 3 cours. Là. C'est pas obligé d'être un cours par module. Fait qu'on va vraiment au rythme d'élève. Ça, c'est le volet 1. Le volet 2, c'est plus des gens qui ont leur cellulaire, qui ont leur tablette. Puis là, ils ont des questions. Hein? Donc, souvent, les enfants sont occupés ou ils ont pas la patience. C'est ce qui ressort beaucoup au niveau des aînés. Quand ils veulent voir leurs parents, c'est pour les voir eux. C'est pas nécessairement pour taponner sur leur cellulaire. Donc, ils peuvent venir, là, ils ont le droit à 4 cours d'environ 1h30. Donc, c'est vraiment les élèves qui posent les questions aux bénévoles. Donc, le bénévole, il n'y a pas de préparation à faire. C'est vraiment eux qui arrivent avec leur petite liste de questions. Puis, croyez-moi, le premier cours, ils arrivent avec une bonne liste de questions. Puis, au fur de le temps passe, là, ils voient d'autres questions. Puis, après ça, ben, ils ont le droit à 4 cours, là, en moyenne, là, par personne. Souvent, ça fait le tour. Souvent, ils repartent, contents. Il y en a qui se rendent même pas à 4 cours, là, parce qu'ils ont juste 15 de questions. Puis, et voilà, c'est fini. On les voit plus jamais. Donc, ça, c'est le volet 2. Donc, c'est des gens qui ont déjà des outils, qui sont déjà, je dirais, de niveau intermédiaire, mais qui ont des petites questions.
Super. Puis, je renverrai la parole à Marie-André, là, pour... tantôt, on parlait dans l'entrevue, là, de Denise, de motivation. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens veulent aller chercher
des nouvelles connaissances. Oui, merci, Annick. Acquérir des nouvelles connaissances,
oui. Oui, en fait, c'est des aspects qu'on voit là fréquemment quand on s'intéresse à la fracture numérique. Tu sais, développer ses compétences, ça c'est une chose. Il y a plein de gens qui ont les capacités de le faire, mais il y a beaucoup de il y a 2 éléments qui vont arriver là, soit beaucoup de freins psychologiques, donc de l'anxiété, de la crainte, mais il y a aussi des gens qui ont simplement pas d'intérêt, pas de motivation à utiliser la technologie et ils ont le droit. Puis c'est ça en fait qu'on trouve de important de notre côté, c'est que ce droit-là il soit conservé. On est en train d'aller vers une transformation numérique, mais ça reste très important de s'assurer s'assurer qu'on ait le choix de pouvoir répondre à nos besoins essentiels hors ligne, donc de façon traditionnelle. Puis ça, des fois, c'est quelque chose qui est oublié, qu'on voit pas. Donc, c'est pas tout de dire que tout le monde peut apprendre. On a le droit aussi de pas avoir envie d'utiliser Internet, de pas avoir envie d'utiliser un ordinateur ou une tablette.
Parce que dans sa logique, elle nous disait, Denise, là, avant, elle apprenait le téléphone, elle appelait ses amis, puis elle appelait ses enfants, je sais pas pourquoi. Pourquoi aujourd'hui, il faudrait qu'elle ouvre son ordinateur, qu'elle ouvre Messenger, qu'elle trouve son fils là-dedans, qu'elle taponne 3 caractères en attendant qu'elle lui réponde 2 heures après, qu'elle se reconnecte pour vérifier si elle a si la personne a répondu. C'est une autre manière de voir les choses.
Effectivement, puis des fois, on va se retrouver face à des difficultés par rapport à ça. Parfois, on va essayer de prendre un rendez-vous chez le médecin, puis la réceptionniste va nous dire d'aller en ligne pour pouvoir prendre notre rendez-vous. Et là, il va falloir s'obstiner avec la personne pour lui dire que nous, on n'a pas d'ordinateur ou on n'a pas de compétences pour finalement arriver. Donc, au lieu d'avoir un contact qui peut être simple, court et agréable.
Chaleureux.
Non, on a juste une fermeture, puis on doit débattre sur notre droit, puis le fait qu'on n'y a pas accès, nous, on n'a pas envie de l'utiliser, finalement. Donc, c'est pas toujours facile de se faire respecter nos droits par rapport à ça.
Justement, ben, on pourrait peut-être terminer l'émission, essayer d'entrevoir un peu à quoi ressemble l'avenir du numérique au Québec, Marie-Andrée. On aurait plein d'exemples dans cette émission à donner, justement, d'impasses qu'on peut rencontrer en tant que citoyen et peut-être encore plus auprès de personnes aînées qui sont moins connectées. Est-ce que c'est un avenir morose qu'on a dans un monde entièrement numérique?
Moi, je suis une personne qui a de l'espoir dans la vie, là, donc je vois pas ça comme un avenir morose, mais je pense qu'il faut réfléchir plus largement à comment rendre à la fois le numérique plus accessible et à la fois le hors numérique, s'assurer que le hors ligne qui reste accessible. Donc, qu'on continue d'offrir l'ensemble, qu'on puisse répondre à nos besoins essentiels sans avoir à ouvrir un ordinateur, sans avoir à utiliser une tablette. Donc, je pense qu'il y a des solutions qu'on peut mettre en place. Il y a des réflexions collectives à y avoir pour y arriver. Puis c'est en travaillant, je pense, tous ensemble qu'on va pouvoir arriver à garder accessible à ce que tous les citoyens puissent répondre à leurs besoins, finalement.
Parce que c'est sûr qu'ici, on parle d'aînés. T'sais, on est une émission par rapport aux aînés. Donc, souvent, on a en tête que on va faire de l'agisme. T'sais, les aînés ne comprennent rien à la technologie. Ils sont trop vieux pour se mettre à la technologie. Mais tu l'as dit en introduction de l'émission, en essayant d'expliquer la définition de la fracture numérique, c'est pas seulement les aînés qui freinent le Québec à aller de l'avant. Je veux dire, l'accès, la pauvreté pour accéder à des machines, l'accès à Internet aussi dans les régions ou autres, c'est aussi un enjeu. Donc, cette question de l'avenir, elle touche toute la population.
Oui, absolument. C'est un mythe tenace là, que la fracture numérique, ça touche juste les aînés. Au contraire, on le voit beaucoup, les gens qui ont un plus faible revenu, les gens qui ont un niveau d'éducation plus faible, les
familles nombreuses qu'on parlait tantôt, là, notamment.
Exactement. On peut voir des différences même aussi chez les gens qui ont pas d'emploi. Selon le genre aussi, il va y avoir des différences qu'on peut noter. Le fait d'avoir un handicap ou une limitation fonctionnelle peut aussi là amener des barrières supplémentaires. Là, tout à l'heure, quand Denise parlait de la vision, c'est des choses de plus qui nous rendent, qui rendent la technologie moins accessible.
Et toi, ton organisation, justement, est-ce que vous pouvez pallier, vous avez le pouvoir de faire remonter l'information ou de condenser un peu tout le vécu des gens pour faire remonter ça? Soit des organisations, tu sais, on sait, je sais pas, le transport, le RTC qui va adapter peut-être certaines choses en papier, mais tu sais, on sent qu'on est à la fin de cette ère-là. Hydro-Québec envoie des factures, puis tu sais, dans toutes les organisations qui envoient des factures papier, mais qui nous font payer pour nous pousser à aller vers le numérique. Est-ce que vous avez un petit peu le pouvoir ou le souhait de montrer au gouvernement ou aux municipalités qu'il y a des choses qui peuvent au moins en entre les deux?
Effectivement, nous, on veut jouer un rôle de sensibilisation. Donc, on veut être peut-être un porteur de ces idées-là, donc pouvoir amener ça aux bonnes personnes. Par contre, on le voit aussi dans un rôle commun où on veut travailler tous ensemble. Donc, on veut amener ces gens-là à venir travailler avec les... pour l'instant, c'est beaucoup des organisations communautaires qui sont autour de la table, mais on veut s'assurer que ça soit pas les seuls. Par exemple, en ayant inclus Mon Avenir TI autour de la table, ben eux, c'est des gens du numérique, là. Donc, on parle, ils vont collaborer avec beaucoup d'organisations qui peuvent, par exemple, aller offrir un service développer un produit pour le gouvernement. Donc, en s'associant avec le plus de gens possible dans la façon d'y réfléchir, on pense que ça peut être aussi là, une façon vraiment porteuse là, d'amener ces messages-là aux bonnes personnes puis dans les bons milieux.
Donc, on va aller du côté à Geneviève. Geneviève, est-ce que tu penses que la famille, l'entourage des personnes aînées ont un rôle à jouer là, dans cette sensibilisation accès au numérique?
Oui, tout à fait. Donc, si vous avez des parents ou des grands-parents, vous voyez qu'il y a des difficultés, donc attendez-vous pas qu'ils vous le demandent, souvent ils le feront pas. Donc, prenez les devants, soyez patients. Puis si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas cette patience-là, eh bien, référez-le soit au projet Lanette me branche, donc ce sont de la Haute-Saint-Charles, ou soit vers les bibliothèques. Hein. Donc, souvent, ils vont offrir certaines sessions. La Ville de Québec, les loisirs, parfois offrent aussi des sessions sur ordinateur. Donc, référez-les. Donc, oui, pognez la balle au bon si vous remarquez quelque chose ou si, encore mieux, si vous le demandez. Là. Et ayez beaucoup de patience.
Oui, puis c'est ça, tu sais, tantôt, on parlait avec Marie-André. Oui, Marie-André, excuse-moi, j'ai eu un blanc. On parlait avec Marie-André des autres collaborateurs là auxquels le projet Vote pour ça est un peu partenaire. Donc, tu sais, on pense à la Marie des Mots, on pense à Limoitou Limoilou qui ont aussi là des cours informatiques là pour la population dans les autres secteurs que la Haute-Saint-Charles. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Je pense que c'est un petit peu ça que tu voulais dire, Geneviève.
Oui, exactement.
Alors, Marie-André, toi, tu disais en début d'émission que tu avais aussi le souhait dans ton projet de sonder un peu la population. De quelle manière ils peuvent vous rejoindre?
Oui, en fait, il y a différentes façons de nous rejoindre. D'abord, ils peuvent aller sur notre page Internet votepour.ca/fracture. Mais les gens qui voudraient vraiment pouvoir participer à la consultation, des gens qui vivent une situation de fracture numérique, ils peuvent nous téléphoner directement puis on peut faire un entretien téléphonique avec eux. Donc, c'est le 581-892-VOTE. Donc, 581-892-8683.
Puis à ce moment-là, quand ils appellent, est-ce que c'est parce qu'ils se plaignent qu'ils n'ont pas Internet dans leur secteur, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous...
En fait, l'appel est vraiment pour mieux comprendre leur réalité. Donc, nous, on pense que pour agir de la bonne façon, on doit pouvoir comprendre ce que les gens vivent. On vit pas tous la même chose. Il y a différentes réalités, dépendamment de où on est. Tu sais, par exemple, il y a des secteurs qui vont être beaucoup mieux desservis sur... donc qui vont vivre une réalité complètement différente que quelqu'un qui est dans un secteur où il y a pas de c'est plus difficile d'avoir accès à des cours ou il y a peut-être moins de place pour avoir accès à du Wi-Fi gratuit. Donc on veut s'assurer de comprendre vraiment la réalité de ces gens-là, puis on pense qu'en ayant un échange avec eux, c'est la meilleure façon. Puis on veut vraiment s'assurer là de que ces gens-là y aient accès. Donc, c'est pour ça qu'on a favorisé là, l'entretien téléphonique. Ils peuvent aussi nous contacter. On peut se déplacer dans un milieu pour aller les rencontrer, rencontrer un groupe de personnes qui voudraient nous en parler. Donc, si jamais là, il y a de l'intérêt à pouvoir échanger sur le sujet, n'hésitez pas, soit en allant sur le site Internet. Vous pouvez m'envoyer aussi un courriel à marie-andre, donc A-N-D-R-E-E, à commercialvotepour.ca et le numéro de téléphone que j'ai nommé tout à l'heure.
Parfait. Donc, s'il y a d'autres organisations, d'autres organismes communautaires qui ne vous connaissent pas encore, qui veulent participer à cette réflexion, concertation, ils sont les bienvenus aussi, j'imagine.
Oui, absolument. Puis, sur notre page Internet, il y a une consultation qui, elle, se fait en ligne, qui s'adresse aux organismes pour qu'on puisse comprendre à la fois la réalité de leur clientèle, mais à la fois aussi la réalité de ces organismes-là. Donc, est-ce qu'ils offrent des services? C'est quoi leur capacité d'agir par rapport à la fracture numérique? Donc, on ne parle pas juste ici d'offrir des services pour développer les compétences, mais aussi pour soutenir des citoyens qui vivent de la fracture numérique. Là.
Bye, Geneviève, c'est peut-être toi qui vas avoir le mot de la fin. Geneviève, laissez les coordonnées pour les gens de la Haute-Saint-Charles qui voudraient justement avoir accès à vos services.
Oui, donc il reste de la place pour septembre prochain. Donc par téléphone au 418-847-0308, le poste 111. Il y a aussi la page Facebook Le Net me branche ou par courriel à grobitaille@commercialcjec.com.
Ben merci, mesdames, d'être venues avec
merci.
Nous pour cette émission du mois de mars pour parler justement de cette vaste question de la fracture numérique. Puis je suis sûr que dans 5 ou 10 ans, on pourrait encore refaire une autre émission là-dessus. Il y aurait encore des choses à dire, malgré que ça avance vite, le monde, la technologie. Annabelle, nous, on se dit au mois prochain, donc au mois d'avril, on va parler alphabétisation avec Alphabeille.
Oui.
Donc ça va être une émission aussi intéressante. Et on vous laisse donc sur les ondes de CKIA au 80. 88.3 pour la suite de la programmation. Et on vous dit donc au mois prochain.
À la prochaine!
Bye!